Voilà, c'est comment ça marche.
Super, merci. Bonjour à tous. Alors, je me présente donc. Je m'appelle Mam Andréana Tendreau, j'ai 24 ans et je travaille en partie d'abord dans une église à Mulhouse, enfin plus précisément à Pfastatt, une petite ville à côté de Mulhouse, où je travaille là-bas en tant que pasteur, qui travaille principalement donc dans le domaine de la jeunesse et de l'évangélisation. Et je travaille aussi à temps partiel dans l'association Jeunesse pour Christ France, JPC, qui est une association tournée donc aussi vers la jeunesse et l'évangélisation. Le travail particulier, je fais deux choses principalement là-bas. La première, c'est que je forme des jeunes adultes et des jeunes mineurs, aussi dans le domaine de l'évangélisation, de la mission. Et ce que je fais aussi, c'est que je travaille énormément, principalement donc, dans le domaine des réseaux sociaux, le digital en général, donc tout ce qui est sur vos écrans, du matin au soir souvent, pour certains et pour d'autres, une partie, enfin en tout cas les écrans en général, ce qui occupe une grande partie de notre vie aujourd'hui. Et donc mon objectif, c'est de pouvoir apporter l'évangile, de pouvoir apporter Jésus aux personnes, aux jeunes principalement, donc, dans le domaine des réseaux sociaux, du monde digital. Et donc l'objectif de tout ça, c'est justement de pouvoir apporter quelque chose en lien avec la parole, qui va pouvoir essayer de donner un espoir aussi, parce que notre monde est souvent très négatif, et on connaît le négatif, parce qu'on sait qu'en France, on est souvent considéré comme des bons râleurs, en bon français que nous sommes. Donc l'objectif, c'est d'apporter quelque chose d'autre que ce négatif qui est souvent trop mis en avant dans les médias, dans les réseaux, dans l'univers digital. Et donc, ce matin, j'ai été invité auprès du groupe de jeunes des Albatros, je l'ai bien dit, super, pour intervenir sur le domaine des réseaux sociaux. Et je me suis dit, vu qu'on est dans la thématique, pourquoi pas continuer un petit peu avec tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux ce matin. Et je me suis dit, j'ai réfléchi à ça il y a à peu près un mois et demi, je me suis dit, pourquoi pas utiliser un phénomène, un domaine qui est très présent dans l'univers digital. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère, principalement sur les réseaux sociaux, l'ère du « je sais ». Ah, super. L'ère du « je sais ». Dans l'univers, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai remarqué souvent que, alors, principalement dans mon travail, ce que je fais essentiellement aussi, c'est que je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, du coup. Et l'une de mes activités favorites, je mets des grosses guillemets hein, parce que c'est très, très fatigant, mais une de mes activités que je fais le plus souvent, c'est regarder les réactions, les commentaires des gens sur les différentes publications, les différentes vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans cet univers-là. Et ce que je remarque, c'est que tout le monde devient des experts aujourd'hui. Tout le monde devient des experts de tous les domaines. Tout le monde dit « je sais ». Ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça, etc. Enfin, c'est ce qui est présent et c'est ce que l'on voit toujours. C'est aussi une ère qui se veut croire un peu que l'on sait mieux que tout le monde en matière de connaissances. On sait mieux que tout le monde, non seulement ce qu'ils vivent aussi, des fois, ce qu'ils pensent aussi, sous prétexte que nous y connaissons un petit peu sur un petit domaine. Nous savons aussi ce que les gens pensent dans leur esprit, ce qu'ils ont dans leur cœur et dans leur vie. Et donc, c'est sur ça aussi que j'avais envie qu'on puisse s'intéresser ce matin. En lisant le texte de Paul, dans son épître aux Philippiens, chapitre 3. Ça va être un peu long, ça va être des versets 1 à 16. Pardonnez-moi. Au reste, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, ça commence bien. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux, né d'Hébreux. Quant à la loi, pharisiens, quant au zèle, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai gardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. pour lequel j'ai trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec elle, celle qui s'obtient par la foi, en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà été saisi, ou que j'ai déjà atteint la perfection, pardon, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Comme je vous disais, nous sommes dans l'ère du... Je sais... Oh, c'est dommage, c'est parti un peu tôt. Ah, j'ai raté mon PowerPoint. C'est pas grave. Concrètement, dans... On va essayer. C'est pas grave. Concrètement, dans ce récit, Paul répond à des détracteurs, encore, pour changer. Mais il semble qu'il y ait quelque chose de particulier par rapport à ce qu'il répond ici et contre les détracteurs, l'image et la réponse qu'il nous donne un petit peu. En effet, Paul veut mettre... J'ai pas l'habitude d'avoir un écran là. C'est super et en même temps, du coup, il faut que je prenne l'habitude de ne pas faire ça. Mais en effet, Paul veut mettre en garde les Philippiens en ce qui concerne les pharisiens. Ouais, on les revoit toujours, même après Jésus, ils sont toujours là, eux, par contre. Et donc, ah, ça c'est beau, super, merci. Je sais donc c'est mieux. Bah, vous avez déjà vu ce qui était avant, mais c'est pas grave. En ce qui concerne les pharisiens, ils veulent les obliger à faire comme eux, donc par la circoncision, par tout ce qui concerne les coutumes, les us et coutumes de la loi pharisienne et de la culture juive. Mais cela va encore un peu plus loin. L'objectif particulier, ce n'est pas seulement de les faire circoncire, mais c'est aussi parce qu'ils veulent qu'ils adhèrent à leurs pensées. Ils se servent de leurs connaissances et de leur vécu pour prétendre mieux connaître, encore une fois, ce qui est la foi, la vie en Christ, alors qu'ils n'en connaissent qu'une infime partie. Ils n'ont là percuté qu'un seul élément, ou plutôt ils pensent et espèrent avoir percuté un élément de la foi. Et là vient tout le problème, ils se servent de toutes ces connaissances qu'ils ont de la loi de Moïse pour faire adhérer à leur pensée et à leur manière de faire. Et on a là le premier exemple et le problème des conséquences justement de cette ère du « je sais » dont je veux parler ce matin. Comme je vous disais, tout le monde se trouve être un peu des experts de tous les domaines. Lorsque je travaille du coup et que j'analyse un peu tout ce que je vois, c'est fou, je trouve, ce qu'on voit dans les commentaires, les réactions des personnes, comment ils agissent et interagissent les uns avec les autres. Quand je lis les commentaires, j'ai l'impression que toutes les personnes qui répondaient pendant la période de la pandémie aussi, j'avais l'impression qu'ils s'y connaissaient mieux en médecine que mes amis infirmiers et infirmières. Aujourd'hui, ils sont plus doués en géopolitique étant donné la situation en Ukraine. Donc voilà, tout le monde sait tout, tout le monde connaît. Pourtant, tout le monde reste dans son salon. Parce que c'est aussi ça la facilité des réseaux sociaux et du digital, c'est que c'est très facile aujourd'hui de prétendre tout connaître, parce qu'on est de loin, on est de notre salon, dans notre chambre, sur notre lit, je ne sais pas, avec juste notre téléphone ou notre ordinateur. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que finalement, ils confondent deux choses. Ils confondent le savoir, le véritable savoir, avec la volonté d'avoir raison. C'est deux choses qui sont très distinctes, mais entre lesquelles la frontière est très mince. C'est-à-dire qu'ils aiment bien, au contraire, ils ont envie d'avoir raison, plus qu'ils ne savent ce qu'ils disent. Et je suis bien placé pour dire ça, je suis têtu comme une mule. C'est un de mes plus gros défauts. Je travaille à me sanctifier là-dessus, mais je suis têtu. Et voilà. Je rame tous les jours avec ça. Mais aussi, dans tout ce qu'ils font, les tendances qu'il y a là-dedans, ils ont pensé à savoir, ils pensent plutôt savoir parce qu'ils ont lu deux, trois éléments sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur Facebook, Instagram ou des choses comme ça, tout type de réseaux sociaux. Et forcément, il y a des informations qui circulent. Il y a des choses comme au journal télévisé ou le journal papier. Il y a des choses qui circulent, des informations, des tas de choses en général qui circulent. Et parce qu'ils ont lu deux, trois lignes là-dessus, ils se disent, bah, là d'un coup, on a tous les arguments du monde pour dire ce que l'on veut dire et avoir raison. Et pourtant, comme on se rend compte là, du coup, ce n'est pas le tout de la connaissance, du coup, d'avoir lu deux, trois éléments sur Internet, évidemment. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi commenter et réagir quand on ne sait pas tout ? Parce qu'il a leur façon de penser, et donc, ils veulent que les gens pensent comme eux. Évidemment, ils veulent qu'on... On a souvent envie, quand on argumente ou dit des choses, on a envie que les gens pensent comme nous, qu'on ait raison absolument, mais... La raison pour laquelle aussi on fait ça, c'est aussi parce qu'on le fait avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de certitude. C'est un peu comme en commerce. Avant de faire de la théologie, je faisais du commerce international. Et s'il y a bien une chose qu'il fallait qu'on apprenne, c'était avoir l'air sûr de tout ce qu'on vend. Même si on veut vendre un éléphant rose, il faut avoir l'impression qu'on sait ce que l'on dit. Il faut avoir l'impression qu'on est sûr et certain que c'est parfait et très bien ce que l'on dit. Et c'est le meilleur moyen de faire adhérer quelqu'un, de faire vendre quelque chose dans le commerce. Et pourtant, même moi, je ne l'aurais pas acheté, l'objet en question, mais pourtant, il faut que je fasse semblant de savoir que c'est quelque chose de bien. Sinon, ce n'est pas logique. Mais la question, c'est, est-ce que c'est là l'intérêt ? Est-ce que c'est là l'intérêt ? Est-ce que l'intérêt, c'est d'avoir raison ? Est-ce que l'intérêt, c'est d'avoir ce dernier mot en question ? Est-ce que l'intérêt, c'est de tout savoir ? Paul, lui, va justement montrer combien cela n'a pas de sens. Il a tout le statut nécessaire pour prétendre justement avoir raison. Comme il l'a dit, il est pharisien de naissance, il a été circoncis, il a tous les statuts. Et aujourd'hui même encore, dans sa conversion, il est apôtre. Donc, il a tous les éléments nécessaires entre ses mains pour dire « Je peux avoir raison, écoutez-moi ». Il a toutes les cartes en main pour le faire. Mais pourtant, lui va montrer que ça n'a pas de sens. Et il a compris autre chose. Il sait que avoir raison, ce n'est qu'une... Avoir raison, ou alors la circoncision, ou toutes les questions autour de la loi ne sont qu'une infime partie. Et ce n'est pas avoir raison, justement, le plus important à ses yeux. Vous savez, je parle des réseaux sociaux, mais c'est souvent... Je trouve que c'est une belle image, les réseaux sociaux, des fois, de ce qui se passe aussi dans nos églises et entre communautés de frères et sœurs en Christ. Je vous disais que je suis très têtu et que je suis un peu beaucoup, grosse tête sur les bords, mais... Et ce que j'aime bien faire en plus, et ça énerve mes amis, ils se tirent les cheveux à cause de moi avec ça, c'est que j'aime bien lire plein d'articles, des fois qui ont pas, des fois c'est très intéressant, des fois c'est pas très intéressant à leurs yeux, mais j'aime lire plein d'articles et plein de choses pour apprendre plus de choses. Du coup, j'ai toujours 50 milliards d'arguments pour essayer d'étayer mon propos, et donc j'aime avoir le dernier. Je n'aime pas avoir ne pas avoir le dernier mot. Je suis obligé d'être honnête là-dessus, c'est encore une fois l'un de mes défauts. Mais du coup, avec tous ces arguments, l'objectif, c'est forcément d'avoir raison. Mais après, quand même, malgré ces défauts, ils savent quand même deux choses, et c'est là sur les points sur lesquels je voudrais qu'on s'attarde en tout premier lieu. Même si je mets du temps avant de reconnaître que je n'ai pas raison, mes amis savent une chose aussi, savent deux choses. Une fois que j'ai réalisé que ça ne sert à rien d'insister car j'ai tort, déjà ça ne me fait pas mal du tout de dire pardon, ce n'est pas quelque chose qui m'écorche personnellement, c'est plus le avant, le fait de reconnaître que j'ai tort, le plus difficile. Mais aussi et surtout, ils sont plus importants à mes yeux que tous les arguments du monde. Bien plus importants. L'amour que j'ai pour eux sont bien plus importants, bien plus grands que l'amour que je peux avoir pour mes arguments, pour ma raison. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce l'essentiel d'avoir raison ? Est-ce l'essentiel d'avoir le dernier mot et d'avoir la vérité ? Dans Zacharie 8, il y a un peu cet équilibre entre vérité et paix. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir raison ou d'avoir la paix ? Voilà, chacun son curseur. Mais l'autre question aussi, c'est est-ce l'important que tout le monde pense comme moi ? Aujourd'hui, dans mon église aussi, l'une des grandes questions qu'on pose régulièrement à l'Assemblée, c'est savoir avoir une belle relation avec ceux qui ne sont pas comme moi. C'est une des choses qui revient énormément. Ça fait depuis septembre qu'on travaille sur ce sujet avec. Parce que vous savez, comme beaucoup d'églises, il y a ce conflit un peu jeune, moins jeune. etc. Donc, évidemment, c'est le grand défi qu'on essaye d'affronter. Et avec ces deux questions, ça nous amène à notre autre point qui va dire « Je sais, mais Christ est plus grand. » Là, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus merveilleux, de plus fabuleux dans ce texte. Justement, je trouve merveilleux l'humilité dont Paul fait preuve dans ce texte. Comme il a dit lui-même, il a été pharisien, son statut d'apôtre, toujours. Il connaît sur le bout des doigts la loi de Moïse. Et c'est fabuleux, c'est fabuleux qu'il connaisse sa Bible ou qu'il connaisse sa parole aussi bien. Mais il considère une chose, il sait une chose, c'est que cela n'est rien comparé à Christ. Son objectif ultime, c'est de gagner Christ, de gagner Jésus. C'est ça son plus grand objectif. Et ça, c'est extraordinaire. Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce texte, j'en ai pleuré parce que c'était si simple, mais je ne pouvais pas passer à côté d'un tel message. Renoncer à voir toutes ces connaissances comme secondaires à côté de Christ. Est-ce qu'on peut relire ensemble le passage sur les versets 7 à 14 ? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai gardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il considère ça comme de la boue. C'est extraordinaire aussi, justement, parce que Paul soutient plusieurs points intéressants là-dessus. La première, il considère ses connaissances comme une perte à côté de Christ. Mais ça va encore plus loin, attention, parce que je trouve que comme une perte, c'est un peu comme si c'était à jeter à la poubelle ses connaissances à côté de Christ, mais c'est un mot qui n'est pas assez fort à mon goût. Du coup, je suis allé chercher un petit peu loin, j'ai creusé un petit peu plus, et je suis allé voir un peu l'équivalence en grec, et on pourrait le traduire aussi perte par excrément. Là, c'est une belle image, là. C'est pas très glamour, je sais, désolé. En plus, un dimanche matin, on n'a pas forcément envie de parler d'excrément, mais il considère justement toutes ses connaissances non pas comme, seulement comme une perte, mais comme des déchets corporels à ses yeux pour gagner Christ, pour gagner Jésus. Là est l'essentiel de sa vie, là est l'essentiel de son objectif personnel. Est-ce que l'on pourrait considérer comme une perte ce que l'on sait ou l'on pense savoir pour gagner Jésus, pour gagner Christ, pour gagner la connaissance pleine de l'amour que Christ a manifesté? On lisait tout à l'heure Romains, et Romain, quel fabuleux livre pour exprimer l'amour dont Christ a fait preuve par son sacrifice à la croix. Là aussi, le phénomène par rapport aux réseaux sociaux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je suis assez triste personnellement quand je vois aussi, non pas que les personnes qui commentent, mais aussi des chrétiens entre eux sur les réseaux sociaux. Potentiellement des véritables frères et sœurs en Christ. C'est tellement dur. Parfois, je vois des mots, je vois des paroles. Juste pour avoir raison, on est prêt à écraser l'autre, être dur, être méchant carrément avec son frère, avec sa sœur, juste pour avoir le dernier mot, juste pour avoir raison. Faire étalage de ses connaissances juste pour se dire « ça y est, j'ai le dernier mot sur les réseaux sociaux ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe en plein cœur aussi, avec mon cœur d'évangéliste aussi, c'est de me dire que quand je vois ça, est-ce que ces paroles vont être celles qui vont nous permettre de gagner Christ ? Est-ce que ces paroles, est-ce que ces connaissances vont réellement servir quelque chose ? Finalement, d'ailleurs même, je pense que si ces personnes-là lisaient un tout petit peu plus leurs paroles, leur Bible, ils comprendraient justement que ceux qui se placent en tant qu'enseignants seraient jugés plus sévèrement. Et pourtant, on devient tous enseignants, du coup, sur les réseaux sociaux. Alors, bon, je les laisse examiner eux-mêmes ce qui va se passer après, mais voilà. En tout cas, est-ce que cela va aider à chercher Christ ? Déjà, d'un point de vue personnel, est-ce que cela va nous aider à chercher à avoir Christ, d'avoir toutes ces connaissances, de savoir tout ça ? On peut vite chercher à avoir raison, plus qu'on ne cherche à mieux comprendre qui est Dieu, mais est-ce que nous sommes prêts à perdre toutes ces connaissances, à considérer ça comme des excréments pour gagner Jésus, pour gagner Christ ?
ça la bonne question, je pense, qu'il faut qu'on se pose individuellement. On parlait de s'examiner par la fin de scène. Examinons-nous. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à avoir le dernier mot, à avoir raison, à avoir ci, à avoir ça pour gagner Christ? Et ça nous amène au dernier point que je voudrais aborder, qui nous dit que l'on sait, mais nous voulons gagner Christ ensemble. Mais gagnons Christ ensemble. C'est aussi toute la raison d'une communauté de frères et de sœurs. Combien de prédications, d'exhortations de la part de Paul, pardon, et des apôtres aussi parlent de la communion des frères et des sœurs en Christ, de cette vie, cette communauté que nous sommes. Et parlons donc ainsi de l'Église et de la communauté qu'elle est. Dans les derniers versets de notre passage, il y en a quelques-uns qui m'interpellent énormément. Déjà pour des points de vue spirituels, personnels, mais c'est aussi pour des points de vue un peu sur la logique. Des fois, il y a des choses qui se contredisaient un petit peu, j'avais l'impression, mais vous allez voir, c'est pas tant que ça. D'abord, la phrase qui m'interpelle en premier, c'est « Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » D'accord ? Ma première lecture, ça me paraissait un peu contradictoire avec ce que Paul dit après, ou plutôt avant, pardon. Il disait ne pas avoir atteint la perfection, mais pourtant il dit « Nous tous qui sommes parfaits. » C'est surprenant, je trouve, mais j'ai compris un peu après ce que disait un de mes professeurs à propos de ce texte. Il disait « Les parfaits sont ceux qui savent qu'ils ne sont pas parfaits. » Ça, c'est dur à reconnaître, ça, des fois, qu'on n'est pas. Quand on aime avoir raison, quand on veut le « je sais », c'est dur à reconnaître, ça, en général, le « je ne suis pas parfait ». Moi, le premier, hein, je parle comme ça, mais j'en suis aussi dans ce défi. Il considère ici le fait de vouloir comprendre, et plutôt il veut nous faire comprendre que justement les parfaits sont ceux qui continuent de chercher Christ. Ou plutôt, dans d'autres versions, il y a d'autres traductions qui sont utilisées. Il cherche à nous exhorter sur combien nous sommes imparfaits et donc à chercher Christ dans son royaume. Dans la version Summer, il traduit même par spirituellement mature. Nous tous qui sommes spirituellement matures. Le fait de reconnaître notre imperfection, le fait de reconnaître le fait que nous n'avons pas toujours raison, que nous n'avons pas toujours le dernier mot, ce sont les matures, les parfaits, qui cherchent à tendre vers cette perfection, vers cette maturité plus grande. Et seulement, il ne s'arrête pas là. Il considère aussi que dans ce système de pensée où nous serions prêts à renoncer à avoir raison, à vouloir absolument avoir raison, ceux qui sont prêts à renoncer à ça, justement, vont chercher à gagner Christ. Il nous appelle à marcher d'un même pas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, les mots durs que j'y vois, qui existent aussi entre chrétiens, du coup, créant de la division pour gagner des débats sans intérêt, parfois. Je le vois tous les jours. Déjà aussi, je suis responsable de jeunes aussi, et du coup, quand je les vois débattre entre eux. Ouais, surtout que des fois, les débats, c'est sur un jeu vidéo. Alors là, je les regarde en disant, je comprends pas. Et des fois, ils me posent des questions aussi. Ils me disent des choses. Des fois, si je pouvais... Vous voyez les joueurs de baseball, j'imagine la même chose, le même geste venant de moi, du coup, parce qu'ils ils disent quelque chose qui me paraît aberrant, mais en même temps, je me dis... Ok. Ça concerne toujours les jeux vidéo, hein. Mais moi qui n'y joue pas trop, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que lui est content, même si ça ne m'intéresse pas spécialement comme sujet. Les mots durs qu'on y voit n'assurent même pas le salut, mais pourtant, on se donne l'obligation d'avoir raison là-dessus. Pourquoi ? Dieu ayant créé l'Église et la communauté, j'aime beaucoup la phrase de Bonhoeffer qui dit que l'Église, la communauté, n'est pas un don ni un dû que Dieu nous donne. C'est un cadeau de la part du Seigneur. La communauté, les frères et sœurs sont un cadeau. Alors, est-ce que nous serions prêts à renoncer à avoir raison tout le temps pour gagner lui, pour le gagner lui, pour gagner Christ ? Mais aussi à se poser cette question. Est-ce que je suis prêt ou prête à renoncer, à avoir ce dernier mot pour gagner Christ ensemble ? Paul exhorte à courir la course, à mener ce combat, à chercher Christ ensemble. Avoir raison, est-ce que c'est une manière, avoir absolument raison est une manière de gagner Christ ensemble ? Ou est-ce qu'on est prêt à se dire, que ce dernier mot n'est pas plus important que mon frère, et encore moins important que gagner Christ ensemble. Mon frère, ma sœur. Pardon, désolé, mesdames. Évidemment, il est bon de s'aider à grandir en sachant se corriger tout, quand il y a besoin. Forcément, c'est des choses importantes dans l'Église. Mais le plus important, c'est gagner Christ, courir cette course pour gagner Jésus, pour gagner Christ. Et juste pour aiguiller un petit peu le propos qui me fait rire, quand je faisais du handball en club, à haut niveau, et quand on jouait, du coup, c'est un sport d'équipe. Évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre le but en équipe, de marquer, et pas tout seul. Et il y avait une fois un joueur qui avait décidé de faire l'action tout seul sans écouter les coéquipiers. Et quand il a marqué, il n'a pas marqué, et il y avait un des joueurs, il me faisait toujours rire, il avait toujours des vieux adages sortis de nulle part, qui ne voulaient rien dire, mais qui semblaient avoir du sens dans son cerveau. Il avait dit « Ce n'est pas la banane qui va faire chanter le singe ». Quand il a essayé de marquer son point. Mais on n'a pas compris le sens. Mais je pense qu'on a compris la volonté qu'il voulait marquer derrière. L'équipier en question a renoncé à l'équipe pour atteindre un but qu'il n'a même pas atteint finalement. Parce que l'objectif, c'était de gagner l'objectif ensemble. Gagnons cet objectif, cherchons justement à être prêts à renoncer aussi à ce dernier mot, renoncer à cette raison qui des fois n'est même pas une question qui nous assure ce salut, qui nous assure Christ. Pour gagner Christ ensemble. Parce que Jésus est plus grand, Jésus est plus important. Il est bon de tendre à vouloir gagner Christ ensemble plutôt que de gagner notre débat. Si c'est vraiment la chose que j'aimerais qu'il puisse ressortir finalement de tout ça, c'est ne pas considérer nos arguments, et c'est pour quelqu'un qui est fan d'arguments, comme moi vous dit ça, avec le plus d'humilité possible, considérant nos arguments comme moins importants que Christ ensemble. Parce que c'est là la communauté que Christ nous a donnée, le cadeau que Dieu nous a fait. Merci pour votre écoute. Je, je,